Oui, donc j'ai fait la transition. Ça a été relativement facile finalement. Juste pour rapidement signaler que cette présentation est une continuité de ce qui a pu se dire déjà en 2013. Donc, où en est-on ? Je rappelle qu'en 2013, simplement, Thierry Courbis avait animé cet atelier pour présenter un peu l'état des lieux du dispositif. Et donc, on va avancer sur la prochaine diapo, si c'est possible. Pardon. Donc, je vais faire l'état des lieux. On va faire un petit état des lieux de ce qui s'était dit l'année dernière, simplement parce que peut-être certains n'étaient pas présents, mais aussi ça permettra de redéfinir un petit peu tout ce qui a pu se passer depuis. Donc, ça, c'est donc l'ordre du jour, c'est rappel des travaux de la journée 2013. Un premier état des lieux, donc ce qu'on a engagé en termes au travers d'une enquête auprès des établissements, un zoom sur quelques thématiques et surtout sur une expérience. Alors certains peuvent appeler ça une belle histoire, nous on va appeler simplement ça une histoire, parce que c'est souvent comme ça que c'est noté, mais c'est une histoire vécue au travers de l'EPSM, d'une expérience autour de l'EPSM du Morbihan. Voilà. Pourquoi vous présenter ce groupe ? Ben, ce qui est important, ce n'est pas les noms, mais surtout ce qu'ils représentent. Donc, les personnes qui ont travaillé sont de tout corps professionnel confondu, de directeurs, des infirmiers, des médecins, et d'autres personnes qui prouvent bien que le système d'information n'est pas que l'objet des informaticiens, mais bien au-delà, et il couvre bien tout l'hôpital. Donc, voilà. Donc, je vais commencer ce rappel des journées. Donc, hier, aujourd'hui, on a parlé de territoire. On l'avait déjà dit l'année dernière, mais il est clair que la psychiatrie, le territoire, on connaît, quel qu'il soit, quelle que soit la dimension. Mais on y travaille depuis plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, je crois, hier, c'est ce qui a été dit. Et donc, pour ce fait, on sait quand même un peu de quoi on parle. Les implications sur la stratégie, la planification stratégie et l'offre de soins et la place de l'usager ont été une thématique qui a été grandement abordée l'année dernière et qui contribue et qui aujourd'hui même, je dirais, le dispositif fédérateur de ces deux journées, puisque c'est l'évolution autour du territoire et la place des uns et des autres dans la prise en charge des patients. Ce qui est ressorti l'an dernier, c'est qu'on avait quand même deux pistes de réflexion importantes. C'était aujourd'hui l'outillage autour du dossier patient. Donc, comment on pourra le partager au sein des territoires ? Je dis bien des territoires, puisque je crois que c'est encore une problématique qui s'annonce, mais aussi toute la problématique de la mobilité. Alors, ça a été un peu évoqué hier, je crois, c'est que le patient a besoin d'informations, il va falloir lui donner, il va falloir utiliser cet outillage moderne, et le professionnel, quel que soit le lieu dans lequel il doit effectuer sa mission, il doit pouvoir avoir accès au système d'information avec toute la technologie qu'aujourd'hui est amenée, est apportée. Un élément qui ne figure pas sur ce transparent, c'était le fait que finalement ce n'est pas qu'un problème technique, on l'a dit l'année dernière, je crois, c'est aussi un problème politique de volonté de pouvoir mettre en œuvre tout l'outillage technologique au service des uns et des autres, avec une certaine garantie de confidentialité, de sécurité, etc., qui aurait été déjà abordée, mais qui aujourd'hui, je dirais, un maçon ne peut pas travailler sans truelle. Aujourd'hui, n'importe quelle personne travaillant dans un établissement, sa truelle, c'est aussi le système d'information.
On avait repéré différents outils disponibles dans le système d'information, avec toujours dans l'optique d'avoir un système d'information territorial. Donc le dossier patient médicale personnelle, les différents supports de messagerie de santé qui sont en cours de développement, la visioconférence, la télé-expertise, on va le voir même la téléconsultation, les accès partagés aussi à différents professionnels, le BIOD entre établissements, hein, donc qui est mise à disposition de matériel personnel dans une dynamique professionnelle. Et puis, donc, il y avait trois thèmes de réponse par rapport à ce système. Le fait de l'évolution constante des demandes vers des besoins extra-hospitaliers, hein, comme on a pu le voir hier notamment. Le passage hors des murs dans des services de secteur, mais également dans des services délocalisés. Les services d'urgence de psychiatrie, hein, un modèle à développer dans certaines hôpitaux où il n'y a pas forcément de lien avec l'hôpital psychiatrique notamment, les interventions externes en in et out, hein, donc sur le matériel, et la présence des permanences médicales avec prise à distance notamment. Deuxième type de réponse, le renforcement indispensable des synergies avec les structures médico-sociales, hein, comme on a pu le voir hier, et également le renforcement de la prise en charge des comorbidités somatiques avec nos partenaires MCO.
Donc, au printemps, le groupe a repris ses travaux. Nous avons décidé de questionner les établissements. Donc, nous avons élaboré une enquête qui a été publiée en juin, mise en ligne de juin à début juillet 2014, avec 22 questions. Une vingtaine de questions sur deux thèmes, le partage d'informations entre les établissements, entre les professionnels, et une autre série de questions sur les outils qui destinés à la mobilité des professionnels et aussi des patients. Donc, malgré un petit souci de diffusion de l'enquête, nous avons réuni malgré tout 22 réponses avec des types d'établissements différents, majoritairement des EPSM, mais avec aussi des CH, CHU, SPIC et un GCS. Donc, on a résumé rapidement les thèmes des questions. Sur les établissements qui ont répondu, on peut dire que le dossier patient informatisé est totalement déployé, accessible dans toutes les structures de l'établissement, extra-hospitalière également, et partagé par la majorité des professionnels. Par contre, ce dossier patient ou ces données patients ne sont pas accessibles la plupart du temps aux professionnels mobiles, équipes de liaison, intervenant dans d'autres structures et aux partenaires. La moitié des établissements nous ont dit qu'ils étaient sollicités par les partenaires extérieurs pour échanger des données. Sur la question des outils, les outils classiques sont à disposition des professionnels, mais on n'a pas encore d'outils numériques adaptés ou spécifiquement adaptés. Et les questions portant plus spécifiquement sur l'éducation thérapeutique, nous avions poser la question des réseaux sociaux de parole, nous n'avons pas eu de solution ou de projet en cours. Cependant, nous avons noté dans ces réponses des projets, des expérimentations, et le groupe a décidé en juillet de questionner plus particulièrement presque une vingtaine d'établissements. Donc nous avons à nouveau élaboré une fiche plus précise. Et sur tous ces thèmes-là, l'accessibilité au DPI par les partenaires ou les professionnels extérieurs, c'était le premier type de question. Les outils qui pourraient être adaptés pour des situations d'urgence, pour les personnels en mobilité, pour faire bénéficier les professionnels d'expertise extérieure ou d'être eux-mêmes experts pour d'autres structures, et aussi améliorer l'accès aux soins par le patient, une éducation à la santé et permettre des accès plus larges pour les patients et les familles. Donc, nous avons eu à ce niveau-là une dizaine de fiches très précises retournées par les établissements et ce qui nous a permis de dresser trois thèmes de projets, trois thématiques autour des projets. Tout d'abord, la télémédecine, donc on va approfondir ensuite, sur la télépsychiatrie, des projets de plateforme régionale, le partage d'informations avec les partenaires, donc nous avons eu des expérimentations de DMP, des dossiers patients interopérables pour les échanges d'informations, des projets de plateforme régionale en télésanté et un projet plus particulièrement sur la communauté de Strasbourg. Et par contre, pour l'accès aux soins, enfin faciliter l'accès aux soins des patients ou par leur famille, nous avons eu des projets de confirmation de rendez-vous par SMS et de forums, d'appli, de support d'éducation thérapeutique. Donc le bilan était que la majorité des projets est en phase d'expérimentation. Dans le questionnement sur les difficultés rencontrées, nous avons plutôt noté des freins organisationnels que techniques, parce que les technologies existent. Et nous avons décidé de faire un focus en télémédecine sur notamment les travaux et ce qui était mis en place dans le PSM du Morbihan. Donc je ne sais pas si
le temps. Oui, merci de me donner l'occasion de présenter ces travaux. L'année 2014 est une année d'ouverture sur le sujet puisque j'ai pu évoquer de manière très tangentielle cette question lors de la réunion de l'association des présidents de CME, de CHS, et puis aujourd'hui de manière un petit peu plus substantielle. C'est dire si les controverses ont été longtemps extrêmement vives. En effet, l'idée qu'on puisse soigner à distance est restée longtemps tout à fait inenvisageable pour une majorité de cliniciens, et ce, toutes disciplines confondues, et peut-être encore plus de manière sensible dans le champ de la psychiatrie. Alors, j'ai commencé en 2006 et 2007 avec deux expériences simultanées. L'une qui reliait le PSM de Saint-Avé, donc à Vannes, avec une maison d'accueil spécialisée située à une quarantaine de kilomètres, et puis l'autre dans une activité de pédopsychiatrie dans le cadre d'un service d'éducation et de soins à domicile avec une antenne de ce CESAD qui était située à Belle-Île. Voilà, donc là, on est dans la logique du décloisonnement insulaire. Alors, c'est cette seconde expérience que je vais vous montrer à titre d'illustration, parce que je pense qu'il vaut mieux un dessin que de très long développement. Donc, vous voyez ici, je suis sur le site de Vannes. J'ai à côté de moi un ordinateur portable sur lequel j'ai le dossier informatisé du patient. Et vous voyez le petit patient accompagné de son éducatrice dans le grand écran. Lui, il est situé à Belle-Île. Alors, c'est un enfant qui présente une pathologie assez caractéristique de la pédopsychiatrie, a une instabilité psychomotrice sévère qui a été traitée dans un premier temps par Ritaline, et puis il y a eu un état dépressif qui est arrivé, donc il a fallu suspendre le traitement, reprendre un traitement par risperidone. Donc c'est une affaire assez compliquée. Donc vous voyez, quand je suis à Vannes, je vois mon patient accompagné de son éducatrice, et j'ai aussi un autre écran dans lequel j'ai un retour d'image, hein, ce qui me permet de me faire une idée extrêmement précise de ce que l'enfant voit. Hein. Alors sous le grand écran, vous avez la caméra, qui est une caméra qui me filme, et c'est le même dispositif qu'il a de l'autre côté. Cette caméra, elle est mobile, c'est-à-dire qu'elle a un audio tracking, et si l'enfant se déplace dans la salle, ce qui ne va pas être le cas lors de cette séance, mais si l'enfant se déplaçait dans la salle, ce qui est le cas par exemple dans une séance de psychomotricité, à ce moment-là, la caméra réussit à suivre l'enfant. Donc, c'est un enfant que j'ai suivi pendant à peu près 5 ans. Donc, je l'ai vu en tout 42 fois, et je l'ai vu 6 fois de manière présentielle et donc 36 fois à distance. Je précise que pour aller de Vannes à Belle-Île, la durée de trajet est d'à peu près 4 heures, hein, ce qui fait que quand je fais une journée présentielle, j'ai 4 heures aller, 4 heures sur place, 4 heures de retour. Hein, c'est-à-dire que c'est plus long que le trajet que je ferai pour revenir chez moi ce soir.
Alors, 2006-2007, c'était donc les tout premiers démarrages. La loi HPST, en 2009, a légalisé l'activité de télémédecine. Il a ensuite fallu à peu près 18 mois pour qu'un décret advienne qui permette de décliner l'article qui est dans cette loi autorisait les activités de télémédecine, et ce décret est arrivé en octobre 2010. Alors, ce décret, il prévoit plusieurs actes possibles de télémédecine. Je ne vais pas tous les décliner, mais pour la psychiatrie, j'en ai expérimenté deux, les téléconsultations et les téléexpertises. Alors, vous allez voir dans la petite séquence filmée qui va suivre, vous allez voir que la journaliste, à la faveur de la publication de ce décret, a souhaité montrer que la télémédecine pouvait être utilisable de manière très large, dans de grandes grandes diversités de situations, en faisant un focus sur ma pratique avec des enfants et puis faisant également un focus sur l'activité d'un collègue à l'hôpital européen Georges Pompidou. C'est l'expérience Télégéria avec des personnes âgées. Elle a aussi souhaité montrer qu'il pouvait y avoir une grande diversité de situations géographiques en opposant l'habitat dispersé, a fortiori insulaire, et l'habitat très, très dense, très urbain, puisque l'expérience Télégéria se fait sur deux hôpitaux parisiens qui sont l'hôpital européen Georges Pompidou et l'hôpital Ambroise Paré. Donc, comme j'ai coupé le son de la séquence vidéo, je vous donne quelques grilles de lecture. Vous serez particulièrement vigilant à la nature du matériel utilisé par mon collègue et le mien, et vous verrez qu'il y a une très grande similitude, car pratiquement toutes les activités de télémédecine utilisent un dispositif de visioconférence comme élément de base. Et puis vous serez vigilant aussi sur les mains de l'enfant. Vous verrez à un moment donné, on voit ses mains qui s'agitent, et aussi sur son regard. À un moment donné, son regard fait l'objet d'une attention particulière. Donc tout ça, c'est pour vous dire que dans ma pratique clinique, eh bien, ce sont ces éléments d'observation dont j'ai besoin. Alors je lance la vidéo.
Mystère à boulot.
Alors, se mettre dessus.
C'était bon tout à l'heure.
Ah, ben je l'avance là. C'est-à-dire que là, j'ai un petit truc qui apparaît.
Ah, c'était le risque. Hein. Il est en cours. Ah, voilà. C'est bon.
Alors, bon, c'est une petite introduction faite par David Poujadas sur la publication de ce décret et la loi HPST. Et la séquence s'appelle « Mon médecin derrière l'écran ». Donc ça, c'est l'expérience du docteur Espinoza, Télégéria, à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et puis, voici ce petit garçon qui s'installe à Belle-Île. Pendant que moi je suis à Vannes, et vous voyez qu'il regarde avec attention cet écran qui est un écran géant. Je n'aurais pas besoin d'un tel écran en pratique quotidienne, mais voilà les mains de l'enfant dont vous percevez le caractère instable. Et puis moi j'ai une sémiologie du regard qui a été bien repérée. Ici je n'utilise pas une feuille A4 comme je le ferai en consultation traditionnelle, mais un paperboard, puisque à distance et pour des raisons de filmer, eh bien, je dois avoir une adaptation de la consultation. Donc vous voyez, l'éducatrice discute avec l'enfant, soutient la démarche. Je suis en interrelation avec l'éducatrice et avec l'enfant. Voici le matériel qui suit l'enfant lorsque le bruit se déplace. Et là, je lui demande de faire un travail d'adresse qui me permet d'évaluer sa capacité de concentration. Alors voilà, ça c'est la petite traversée touristique qui vous montre que pour aller de Belle-Île à Vannes, c'est sympathique quand il fait beau. La traversée dure 45 minutes, les bateaux, il n'y en a pas tant que ça. Me voici de retour à Vannes en train de manipuler le matériel et de faire ma démonstration. Donc vous voyez, c'est avec ce matériel que je fais effectivement mon activité de télémédecine avec la maison d'accueil spécialisée de Carblay, où là j'ai affaire à des pathologies adultes très diversifiées, autisme. Retour à Ambroise Paré, vous avez là un orthopédiste, et l'orthopédiste utilise, vous voyez, à peu près le même matériel que moi. Le patient est à l'hôpital Georges Pompidou, et ce patient qui doit être opéré d'une coxarthrose voit ses explications donné avec un accompagnement par une infirmière, et pendant ce temps-là, le chirurgien lui explique la nature de l'opération qui va s'avérer nécessaire. Donc, l'orthopédiste fait ses quelques commentaires à la journaliste. Donc, vous voyez l'infrastructure qui est très semblable à la mienne. Alors, le docteur Espinoza s'est lancé dans des évaluations de coûts. Voilà, je pense que c'est très intéressant de le faire. Les chiffres sont un peu arbitraires, mais au moins, c'est le début de l'élaboration d'une méthode. Il démontre évidemment que dès lors que vous supprimez un certain nombre de coûts de transport et des transferts d'hôpitaux entre de patients d'un hôpital à l'autre, eh bien, les choses peuvent réduire un certain nombre de coûts. Et voici le patient qui, mon petit patient qui rentre chez lui avec sa maman, que j'ai également eu l'occasion de rencontrer dans mon activité de télémédecine. Alors, j'ai parlé un peu vite, mais il fallait réussir à suivre la séquence filmée. Donc, à partir de 2009-2010, j'ai fait différentes déclinaisons avec une deuxième maison d'accueil spécialisée située, elle aussi, à une cinquantaine de kilomètres et qui a une unité spécifique pour autisme. Et j'ai fait un partenariat avec le CHU de Brest qui a le centre régional d'évaluation des situations autistiques. Donc, entre cette maison d'accueil spécialisée et l'hôpital de Brest, il y a 250 km, c'est à peu près 2h30 de trajet. Donc, les évaluations nécessaires au bilan approfondi, on a pu en réduire les contraintes kilométriques en passant de 3 séances sur place à 2 séances sans déplacement et 1 séance avec déplacement. Ensuite, j'ai développé mon activité dans un foyer d'accueil médicalisé. Alors là, c'était très intéressant parce que on avait des pathologies d'une autre nature, surtout des schizophrénies invalidantes résistantes au traitement classique, mais aussi des névroses graves, divers types de délires. Et donc, j'ai pu constater qu'il y avait quand même une grande diversité de pathologies qui étaient accessibles à l'activité de télémédecine. Le CHPP, c'est un hôpital général, l'hôpital de Plouermel, dans lequel j'ai une activité de télé-expertise pour les situations de psychiatrie de liaison. Et puis aujourd'hui, je développe un projet qui est d'établir une continuité du parcours entre l'intra-hospitalier et l'extra-hospitalier au sein d'un pôle de psychiatrie adulte pour faire en sorte que le patient quittant l'hospitalisation ait une consultation de sortie simultanée avec l'infirmier du CMP qui aura la charge de son suivi. Alors, vous voyez, jusque-là, j'ai essentiellement travaillé avec des structures qui étaient gérées par le même hôpital, de telle sorte que la question qui m'est souvent posée de la responsabilité et des questions assurantielles soit non pas réglée, mais en tout cas neutralisée, puisque le même partenaire est présent de chaque côté. Là, maintenant, on s'étend vers des partenaires extérieurs parce qu'on le fait dans le cadre de la réponse à un appel à projet régional. Et il s'agit de rendre une réponse à des patients qui sont en EHPAD. Donc, ce travail a commencé pendant l'été dernier et des premières téléconsultations ont eu lieu. Donc, je peux dire aujourd'hui que j'ai exercé la télémédecine pratiquement de l'âge de 4 ans pour le plus jeune patient à l'âge de 84 ans pour la plus âgée des patientes. Alors, l'appel à projet régional, c'est quelque chose qui a là une dimension véritablement institutionnelle très forte et qui suppose la mise en place de ce qu'on va voir dans pratiquement toutes les régions, c'est-à-dire des plateformes régionales de télémédecine qui vont intégrer, dans la grande majorité des cas, des volets de télépsychiatrie. Il faut savoir que sur 8 projets régionaux en Bretagne, 3 projets concernent la psychiatrie très directement. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de pathologies qui sont éligibles. La diversité est grande également au regard des âges possibles. Pour l'instant, j'ai essentiellement utilisé les téléconsultations et les télé-expertises. Je pense qu'on va maintenant s'acheminer vers l'appui aux professionnels de santé, c'est-à-dire la téléassistance. Très honnêtement, notre projet, c'est de diversifier la couverture territoriale, d'améliorer évidemment l'égalité d'accès aux soins. Et on va devoir travailler maintenant sur un certain nombre de problématiques juridiques qui sont encore assez complexes. Mais je vais maintenant laisser la parole à Isabelle Bandroudeau.
Alors, en synthèse de notre démarche qui se poursuit et qui est même appelée à s'intensifier sans vouloir être exhaustif, nous avons identifié quelques freins à lever et également les atouts que constitue l'usage de la télémédecine. Alors, au niveau des freins, un des premiers qu'il faut mentionner, c'est l'acculturation professionnelle, parce que si l'on constate, et notamment, et y compris dans le cadre du projet Soins en EHPAD, que les résidents, au final, sont assez réceptifs à l'usage d'un dispositif de télémédecine dans le cadre de leur prise en charge, c'est un peu plus compliqué pour les professionnels, probablement d'une part par une réticence à exposer ces pratiques, mais également probablement par une certaine appréhension par rapport à l'outil technologique. Donc tout cela pour dire que ça nécessite un accompagnement du changement et pour la prise en charge et l'évolution et l'appropriation de la démarche de télémédecine. Et donc, dans certaines situations, donc il est même souhaitable d'identifier un assistant de télémédecine qui assiste les professionnels dans la réalisation de l'acte. Alors, le docteur Robin l'a mentionné, le problème de la responsabilité médicale, enfin de la responsabilité professionnelle au sens large, puisqu'elle concerne d'autres professionnels de santé et également les psychologues qui peuvent réaliser un acte de télémédecine au regard du décret de 2010. Et dans ce cadre-là, dans le cadre d'un fonctionnement intra-extra-hospitalier au sein d'une même entité juridique, la responsabilité supplémentaire qui peut être engagée, c'est toujours celle du tiers technologique, hein, puisqu'il faut se connecter à un dispositif de visioconférence malgré tout, et entre plusieurs entités juridiques. Là, le nombre d'intervenants est croissant, et donc il importe de sécuriser cet échange d'informations, de tracer ce circuit de l'information également. Et là, les plateformes régionales de télémédecine prennent tout leur sens, hein, puisqu'elles permettent à la fois à l'établissement requérant de transmettre de l'information en amont de la téléconsultation, de la téléexpertise, et de sécuriser la réalisation de l'acte. Et en retour, la plateforme régionale de télémédecine contient également le compte rendu de l'acte que chaque établissement peut récupérer et intégrer dans son dossier patient ou dans son dossier résident pour les EHPAD. Une autre question qui se pose, c'est quel investissement, quel déploiement, quels objectifs, quels usages par rapport à la télémédecine. Donc le coût d'investissement n'est pas négligeable. C'est un équipement et on le voit, le coût peut être assez différent. Sur notre projet régional là, en Bretagne, on est entre 3 000 et 15 000 euros en gros. C'est aussi un coût de maintenance annuel et d'adhésion à un service de télémédecine pour accéder à la plateforme et au service de visioconférence, peut être difficile à supporter pour les structures de petite taille. Alors c'est un coût qui est actuellement pris en charge en Bretagne directement par l'ARS, et c'est le cas aussi dans un certain nombre de régions, mais à l'avenir le sera-t-il également. Quel type d'équipement retenir? Est-ce que c'est un équipement fixe, une salle qui est équipée, dédiée? Est-ce que c'est un équipement mobile? Ça renvoie à la question des usages et de la diversité des avis spécialisés qui peuvent être sollicités en psychiatrie, en cardiologie, en dermatologie, etc. Le besoin existe, hein, pour les résidents et les patients, mais a-t-on la garantie d'avoir un spécialiste qui soit accessible malgré tout et disponible? Alors, une autre interrogation également, c'est le financement, et ça renvoie au financement de nos activités de liaison, dont le périmètre tend à s'étendre au fil des années. Et on le voit notamment dans le cas de notre projet soins en EHPAD, sur les files actives prévisionnelles que l'on a établies. On voit que cette file active prévisionnelle, elle est supérieure à la file active de liaison qui était suivie jusqu'à présent. Et que sur cette file active prévisionnelle, 2/3 sont des nouveaux patients ou résidents qui ne bénéficiaient pas de prise en charge spécialisée et d'avis spécialisé en psychiatrie concernant les troubles du comportement principalement. Et on voit qu'aussi un certain nombre de... Enfin, la demande s'exprime sur des avis sur les polyprescriptions. Alors tout cela, donc il y a une réflexion qui est, enfin des travaux qui sont menés au niveau de la DGOS sur le financement de la télémédecine, alors qu'ils sont assez peu portés sur la psychiatrie. Donc il nous faut aussi essayer de trouver un financement approprié, puisque c'est du temps médical supplémentaire à mobiliser. Et en première intention, je dirais que ça passe par une négociation et une base conventionnelle avec les structures et une négociation portant sur le remboursement partiel de ce temps médical. Alors, la télémédecine présente un certain nombre d'atouts, et notamment, elle permet d'étendre l'accès aux avis spécialisés, et en cela, une certaine équité territoriale dans l'accès aux soins. Et on le voit notamment dans le cadre du projet soins en EHPAD en Bretagne. D'équiper une salle de télémédecine au sein d'un EHPAD, c'est offrir, permettre aux résidents d'avoir un accès aux avis spécialisés, à divers avis spécialisés. Mais c'est aussi, et c'est le cas d'un projet porté par la Mutualité française en Bretagne, de permettre aux médecins généralistes et à la population locale, à terme, d'avoir aussi accès à ces avis spécialisés, et donc concernant aussi la psychiatrie. C'est aussi un impact qui sera à mesurer sur les hospitalisations, celles qui sont évitées, celles dont la durée de séjour est réduite, et ça permet aussi de préparer, le cas échéant, une période d'hospitalisation ou le retour au sein de la résidence. Donc une optimisation du temps médical pour l'approche en intra-hospitalier. À mentionner également une analyse des polyprescriptions et une réduction des effets iatrogènes attendus. Ça permet également, et ça c'était une des premières demandes lors de notre projet soins en EHPAD, de faire bénéficier les professionnels de santé qui exercent dans des structures isolées d'une assistance pour la prise en charge, notamment c'était le cas des troubles du comportement. Et puis ça permettra également, dans le cadre de la téléassistance médicale, de favoriser la délégation d'actes. Voilà un peu pour un premier retour d'expérience.
Dernière diapositive avant de laisser la place au débat. Donc
il y a encore une diapositive terminale. Mais s'il y a des questions sur la télémédecine, très précisément...
Vas-y, Michel.
On vous laissera le dernier mot et le débat sur votre retour d'expérience. Les nouvelles expérimentations que nous avions pointées pour 2015, c'était est-ce qu'on faisait un retour effectivement et un travail sur d'autres thèmes qui ont été évoqués dans notre questionnaire. Donc on a notamment évoqué le télétravail par exemple. Est-ce que ce type d'utilisation des nouvelles technologies de l'information que le secteur privé utilise beaucoup, est-ce qu'il est applicable dans le cadre hospitalier? La sécurisation juridique des informations de santé, on l'a évoqué aussi en matière technique. La CNIL qui prépare l'application d'une directive européenne sur la sécurité des données informatiques et sur leur accessibilité ne connaît pas la notion de secteur ou de territoire de santé. Je vous rappelle qu'elle ne connaît que la notion de responsable de traitement, et que le responsable de traitement, globalement, c'est le directeur de l'établissement, et que donc, dans le cadre d'informations circulantes et stockable à différents endroits, les points ne sont pas encore tranchés sur qui est responsable de leur conservation et de leur sécurité. Éric Paris a parlé du plan global de sécurité des systèmes d'information qui est inclus dans le plan hôpital numérique, qui lui non plus ne fait absolument pas la place à une notion de territoire ou de sécurité collective, je dirais, des systèmes d'information. Pour l'instant, tous nos plans de sécurité sont tournés autour de chaque établissement, les uns après les autres, et à côté des autres. Et donc, il n'y a absolument aucune réflexion dans ce sens-là. Vous avez aussi vu dans le projet de loi que les systèmes d'information étaient une des compétences futures des GHT. Quel va-t-il en être de façon assez concrète sur ces groupements hospitaliers de territoire? On comprend d'ailleurs l'analyse de gestion, le contrôle de gestion et les DIM, me semble-t-il, en même temps que le système d'information. Le mode de financement, on en a parlé donc avec Isabelle. Est-ce qu'on rentre dans vraiment une relation de prestataire et de client-fournisseur à travers ces technologies avec effectivement des partenaires? Est-ce que ce seront toujours des partenaires s'ils se considèrent comme clients d'une prestation que nous leur ferons rémunérer? Voilà, autre questionnement. Nous avons aussi, je pense, besoin pour formaliser ces réflexions d'un retour plus méthodologique, d'un type de ce que fait l'ANAP autour de retour d'expérience. Je pense que ce serait intéressant qu'on puisse travailler avec eux sur le volet psychiatrique. Le collège des DSIO, donc c'est les collèges régionaux qui regroupent les DSIO de l'ensemble MCO psychiatrie, et ça peut être aussi un relais tout à fait intéressant. On a fait une information en Rhône-Alpes, et c'est vrai que ça peut être aussi des points de réflexion et de propositions intéressantes. Et puis une dernière dimension qui est aussi en devenir, c'est toute la dimension du réseau social et de l'utilisation de la messagerie instantanée autour des établissements. Est-ce qu'on reste complètement étanche à ces nouvelles technologies, ou est-ce qu'on les réutilise, dans quel cadre? Il y a des établissements qui se posent la question. Je crois que le CHU d'Angers va faire une journée sur l'utilisation du réseau social en santé. Je pense que là aussi, ça va être des futurs débats.